We just have too much stuff that's being produced.
Bienvenue dans Onward Fashion, le podcast des solutions business pour une mode durable. Je suis Victoire Sato, cofondatrice de The Good Goods, le premier média francophone sur la mode responsable. Sur ce podcast, je reçois des femmes et des hommes porteurs de solutions pour accélérer la transition sociale et environnementale de l'industrie de la mode. Je vous propose des outils tech, des conseils de marques engagées et de partager l'expertise d'entrepreneurs à succès. Ce podcast est conçu comme une bibliothèque de solutions concrètes, centralisées et immédiatement disponibles pour guider la mode dans son développement durable. Onward Fashion est diffusé chaque mardi sur toutes les plateformes d'écoute. Je vous invite à vous abonner à la chaîne ainsi qu'à notre newsletter business, disponible sur thegoodgoods.fr, pour œuvrer avec nous au reset de cette industrie. Bonne écoute! Chacun d'entre nous a un jour porté un vêtement petit bateau. Du cadeau de naissance à la deuxième ou dixième main, ces habits traversent les générations, de fratrie en cousin, entre connaissances ou inconnus sur les plateformes de revente. Qu'est-ce qui fait la constance et la durabilité des bodys, pyjamas et autres iconiques de la marque depuis 1893? Si la recette est la même, un savoir-faire français, des matières d'exception et la haute exigence de tests de qualité, Petit Bateau change quelques ingrédients en faveur de la durabilité. La marque travaille intensivement à son développement durable, comme le dit mon invité, pour ses 128 prochaines années. En 2017, Thomas Bucaille a rejoint Petit Bateau et le groupe Rocher en qualité de directeur des ressources humaines puis responsable RSE. Liberté, qualité, durabilité, je le laisse nous raconter comment on procède à la transition active d'une marque historique. Bonne écoute! Bonjour Thomas.
Bonjour Victoire.
Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît?
Oui, donc je suis Thomas Bucaille, je suis en charge de la RSE pour Petit Bateau et également le DRH de cette merveilleuse entreprise.
Ça fait combien de temps que vous travaillez chez Petit Bateau?
Ça fait 3 ans et demi.
Et avant, vous pouvez nous parler un peu de votre parcours?
Oui, alors c'est pas forcément passionnant, mais je suis DRH depuis une vingtaine d'années, d'abord dans les cosmétiques et puis depuis 15 ans dans la mode, l'habillement, dans les différents niveaux de gamme. Et donc depuis 3 ans chez Petit Bateau.
Est-ce que vous êtes arrivé par le prisme des RH ou de la RSE? Comment c'est venu cette double casquette?
En fait, on a travaillé progressivement. Il y a eu une prise de conscience progressive de la nécessité de travailler les sujets de responsabilité sociale et environnementale différemment. Et à un moment donné, on s'est dit qu'il faut qu'il y ait quelqu'un au comité de direction qui s'en occupe et je me suis proposé.
D'accord. Et vous-même, en termes de formation, de bagage, parce que c'est vrai que la RSE, on dit souvent que c'est du bon sens, mais malgré tout, il y a quand même tout un tas de codes et de choses à savoir.
Oui, c'est vraiment... Alors, je pourrais dire que je suis un autodidacte, mais vous avez raison de souligner que c'est une expertise, que si on veut être sérieux, il faut vraiment s'investir dans les dossiers, dans les détails, dans les faits. Et là, je reste très, très, très modeste parce que je côtoie toujours des gens qui en savent 1000 fois plus que moi. C'est une des raisons, d'ailleurs, pour lesquelles ce travail est aussi excitant. C'est que non seulement on croise des gens qui partagent vos convictions, qui sont passionnés, mais qui sont des experts de sujets merveilleux, que ce soit la culture du coton, que ce soit toutes sortes de sujets très transverses. Donc, de ce point de vue-là, c'est très stimulant.
Alors, pour savoir un peu où en est la marque aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on revienne à ses débuts. Si je ne dis pas de bêtises, c'est 1893.
Absolument.
Et est-ce que vous pouvez peut-être nous parler de... Alors, je ne sais pas si c'est facile de faire une frise chronologique, mais une petite synthèse de ce qui s'est passé en un peu plus d'un siècle. Quelle était la promesse de départ?
Donc, Petit Bateau a été fondé à Troyes. Je crois que c'est très important. Troyes, c'est le berceau de la bonneterie en France. La bonneterie, c'est la tricoter du coton... de façon circulaire, c'est-à-dire que c'est essentiellement de vos chaussettes, vos sous-vêtements, toutes sortes de produits comme ça. Et c'est à Troyes que les savoir-faire se sont accumulés. Donc nous sommes nés au cœur de ce savoir-faire et on a évidemment à cœur de le défendre, de le maintenir et de le projeter dans le futur. Donc on est une jeune entreprise plus que centenaire qui s'est toujours fondée sur cette notion de qualité. Nous sommes des fabricants, ça c'est très important, et on s'attache beaucoup à la qualité des produits. On s'attache aussi à l'innovation. Donc en 1918, on a inventé la petite culotte, qui est un moment marquant dans l'histoire de Petit Bateau, parce que d'abord c'est un produit iconique s'il en est, Et puis c'est à cette occasion que la marque Petit Bateau elle-même est née, puisque en fait, on se souvient sans doute de la comptine « Maman, les petits bateaux ont-ils des jambes ?» Nous, on a coupé les jambes du caleçon long, et donc c'est pour ça qu'on est un petit bateau. Et la marque Petit Bateau a donc un peu plus de 100 ans. Elle date de 1920. On a continué à innover en adoptant les emmanchures américaines pour les t-shirts, qui facilitent la vie des parents qui ont enfilé des t-shirts à leurs jeunes enfants, le bodyjama, toutes sortes la bouclette velours, toutes sortes de produits innovants, mais toujours avec la notion de qualité, et cette notion qui est née au fur et à mesure, parce que c'est l'expérience des uns et des autres, de durabilité. En fait, c'est marrant, parce que quand on parle de petits bateaux en France, mais même en Europe, vous avez toujours « Ah, j'ai porté du petit bateau dans mon enfance, je les ai gardés, et ma nièce, ma fille, ma copine en portent toujours. Les vêtements que je portais il y a 25 ans sont toujours d'actualité, ils sont toujours de si bonne qualité et d'un style intemporel. » Donc cette durabilité, c'est la durabilité de l'entreprise, hein, puisque ça fait 130 ans bientôt qu'on est là, mais la durabilité des produits, la durabilité du style.
La diversification de l'offre, au départ c'était que les enfants, c'est ça? Et ensuite vous avez étendu à la femme, à l'homme, ça s'est passé à peu près quand?
En fait, c'était surtout l'enfant, mais c'était aussi beaucoup de sous-vêtements. Au début des années 90, cette qualité, en particulier de nos t-shirts, a été reconnue par un grand créateur, Karl Lagerfeld, l'anecdote est assez amusante, il a demandé à ses stagiaires de radier toutes les boutiques de Paris pour trouver le meilleur t-shirt, parce qu'il voulait rajeunir le look Chanel, qui était quand même très guindé, et il a mis des t-shirts, je crois que c'était Claudia Schiffer à l'époque. Donc elles sont allées, elles me l'ont raconté parce que j'en connais l'une d'entre elles, et finalement c'est le t-shirt Petit Bateau qui était le plus approprié parce que de meilleure qualité, et donc c'est comme ça que nous avons défilé sur les podiums, et ça a évidemment donné l'idée à beaucoup de femmes d'adopter les t-shirts. Après, il y a d'autres produits, la marinière, le ciré, qui ont été adoptés par les femmes pour leur vestiaire quotidien.
Est-ce que vous pouvez nous donner un ordre d'idée du volume de vêtements qui est produit chaque année? Enfin, quelques chiffres, par exemple le parc machine restant en France, le nombre de collaborateurs, pardon. Parce qu'on a la sensation que Petit Bateau est une grande marque, mais qui est en fait, ou plutôt un grand nom, mais qui est en fait une petite marque. Vous pouvez expliciter ça ?
Oui, on a 3000 collaborateurs de par le monde, on en a 1500 en France, hein, donc notre ancrage français, il est très clair. On a 700 collègues qui travaillent à Troyes, soit sur le site de l'usine historique, l'usine Saint-Joseph, mais également au centre de distribution qui est dans aux environs de Troyes, à Buchères, et qui font un travail formidable. À Troyes, on produit une grande partie de notre matière et on confectionne une petite partie de nos produits, le reste étant confectionné par des partenaires en Afrique du Nord. Et on a des boutiques de par le monde, donc les 1500 collègues qui travaillent en dehors de France sont pour une part en boutique et pour une part dans notre usine de Marrakech.
Et la délocalisation, elle s'est faite à peu près à quelle période, j'imagine au XXe siècle, et pour quelle raison ?
L'entreprise, comme toute l'industrie textile, hein, l'industrie textile elle a été complètement ravagée entre la fin du XXe siècle et le début du XXIe. Il y avait, je crois, 500 000 emplois en France, il ne reste plus que 60 000 hein, dans l'industrie textile. Petit Bateau a dû faire face à cette transformation, et c'est à ce moment-là qu'on a créé l'usine de Marrakech.
Je voudrais qu'on fasse un petit point sur les matières utilisées par Petit Bateau. Si vous pouvez, par exemple, nous parler du sourcing, de la répartition en pourcentage.
Bien sûr. Bon, Petit Bateau, c'est avant tout une histoire de coton, hein, qui est une matière naturelle, qui est une matière qui a énormément d'avantages. Alors on reviendra après sur la prise de conscience progressive des inconvénients, mais c'est d'abord une matière naturelle extraordinaire. C'est 95%, 98% de nos matières. Donc là, on a pris l'engagement d'être 100% matière éco-responsable à 2025, et on a un cheminement saison par saison, année par année, pour aller dans cette direction-là. Aujourd'hui, on fait environ 40% de notre coton bio certifié GOTS. On vise d'avoir 100% entre le bio et le recyclé. Pour le reste, on complète avec un peu de laine qui est aujourd'hui respectueuse de la bientraitance animale et qui va être prochainement certifiée, hein, no mulching, etc. Et puis des matières synthétiques, que ce soit pour les maillots de bain ou les coupe-vents, les cirés. Et pour ça, on utilise de plus en plus des matières recyclées également, à plus de 50% pour nos maillots de bain, pour nos coupe-vents. Et comme ça, on va aller vers zéro plastique non recyclé en 2025.
C'est vous qui réalisez, donc tricotez la grande majorité du textile utilisé, j'imagine ?
La totalité. On est en train de retravailler notre collaboration avec nos partenaires d'Afrique du Nord. Donc, à trois, on réalise 40% du tricot qui est utilisé, sachant que 80% de nos produits sont en base de tricot. Après, le complément, c'est ce qu'on appelle les grosses pièces, hein, les cirés, par exemple, et puis des accessoires, enfin un certain nombre de produits sur lesquels nous, on n'a pas forcément le savoir-faire. Donc, on travaille avec des partenaires très sélectionnés, on pourrait y revenir, pour ces 20% de compléments. Mais pour les 80% qu'on fait directement ou avec nos partenaires historiques, on tricote les deux cinquièmes. Et le reste est tricoté en Afrique du Nord, dans un atelier avec lequel on a travaillé, qui était d'ailleurs Petit Bateau jusqu'à très récemment.
Oui, c'est ce que j'avais en tête, qu'il était au sein de la marque. Du coup, est-ce que vous pouvez justement nous parler un petit peu de cette méthode de tricot déjà, est-ce qu'elle a été déposée ? Est-ce qu'elle est spécifique à Petit Bateau ? Et qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'elle porte cette qualité depuis autant d'années, en fait ?
Alors, le tricot, c'est un savoir-faire. Hein. La bonneterie, c'est un savoir-faire, c'est un tour de main. Ce n'est pas forcément une méthodologie extrêmement... qui peut faire l'objet d'un brevet, mais en fait c'est une attention à la qualité sur toutes les étapes de la chaîne. Elle commence par la sélection du fil. On achète du fil, c'est assez rare pour que ce soit intéressant de le souligner, parce que dans l'univers textile, et bon, ça fait 15 ou 20 ans que je travaille dans cet univers, c'est très rare d'acheter directement du fil. Donc nous, on achète du fil de coton avec des fibres longues. Et c'est cette longueur de fil, cette qualité de travail aussi avec les filateurs, qui c'est intéressant parce qu'on a fait un audit récemment et le retour de nos fournisseurs, c'est génial de travailler avec Petit Bateau. Vous êtes très exigeant, mais ça nous tire vers le haut. Donc la qualité, elle démarre avec le fil. Et ensuite, c'est des contrôles de qualité tout au long de la chaîne. Avant de commencer la confection, il y a déjà 9 contrôles de qualité, hein. Puis en pratiquement 10, donc en tout c'est presque 20 contrôles qualité différents qui sont pour un produit entre le moment où on qualifie, c'est le mot technique, le fil, et le moment où le t-shirt est réalisé. Il y a 19 étapes, 10 pour le t-shirt proprement parlé et 9 pour le fil et la fabrication.
Quand vous dites qualité, c'est comment dire l'élément juge, c'est vraiment la résistance et la durabilité, parce que j'imagine qu'il y a plein d'autres critères de qualité relatifs à la sécurité pour la peau de l'enfant, par exemple. Mais
alors la sécurité pour la peau de l'enfant, c'est absolument fondamental, mais c'est pas
ça
fait pas partie de ces étapes-là. Nous, on est certifié Cotex 100 sur les trois quarts de nos produits, hein. Les autres, c'est des grosses pièces, des accessoires, etc., sur lesquels les fournisseurs font leur boulot. On est très exigeant, on suit REACH, etc., mais 75% de nos produits sont certifiés Cotex. Donc l'innocuité pour l'enfant et puis pour l'ensemble des clients, elle est garantie par ça. Nous, les tests, c'est des tests qui sont liés au maintien des qualités essentielles du produit tout au long de la vie. Donc on peut dire que c'est tous des tests de durabilité, en un sens, mais ça va être le boulochage, le vrillage, le maintien de la couleur dans le temps, etc. etc. Donc la durabilité, la qualité, est essentielle à cette notion de qualité. Nous, d'ailleurs, on a adopté cette signature, hein, liberté, qualité, durabilité. On veut faire des produits durables, on est une entreprise durable. On pourra y revenir parce que c'est... En fait, on est une entreprise familiale. Hein. On a été fondé par une famille pendant 100 ans. On est maintenant au sein du groupe Rocher, qui est un groupe familial qui est entreprise à mission. cette durabilité, elle est aussi dans nos valeurs d'entreprise, hein, dans nos relations avec nos fournisseurs. On travaille depuis, avec les mêmes fournisseurs depuis, on fait 80-85% de nos produits, je crois, avec des gens avec lesquels on travaille depuis plus de 15 ans. Dans l'univers de la mode, c'est rarissime. C'est rarissime. Et alors, c'est comme dans les mariages, hein, tantôt on s'engueule, on est exigeant l'un avec les autres, mais ça crée des relations de confiance. Ça n'empêche pas qu'on les audite et qu'on ait toute une série de choses très précises qui nous permettent d'assurer la qualité, le respect de l'environnement, des normes sociétales, etc. Mais d'abord, la confiance inscrite dans la durée.
Vous avez mentionné la longueur des fils comme paramètre de qualité et vous avez parlé juste avant de la transition vers le coton recyclé. Mmh. Comment est-ce que vous réalisez cette équation ?
Pour l'instant, on est dans un... avec un certain nombre de collègues, hein, parce que ça, c'est des sujets trop importants et trop complexes pour être pris à l'échelle du simple petit bateau. Donc, on regarde les sujets avec l'ensemble de la profession en France. C'est compliqué. Alors, pour l'instant, on est sur des mélanges. Hein, on ne peut pas faire de 100% recyclé. Mais c'est clair que l'essence même du recyclage aboutit à ce que les fibres soient plus courtes. Et donc, il faut trouver le bon dosage pour maintenir justement cette promesse de qualité dans le temps. Cette durabilité qui est au cœur de l'histoire de Petit Bateau. Donc, ce n'est pas facile, mais j'ai discuté récemment avec notre directeur des opérations qui est très confiant et qui dit qu'on va faire... c'est évident qu'en horizon 2025, hein, ce n'est pas demain matin, une part importante de nos produits avec du coton recyclé.
Et en ce qui concerne le bio, il y a plein de difficultés rencontrées par les marques, aussi bien en termes de traçabilité et de disponibilité de la matière que de coûts. Comment ça se passe de votre côté ?
Alors, nous, on est très ferme, hein, sur l'idée qu'on veut basculer en coton bio, justement pour obtenir ce total de 100% 2025. On avance petit à petit. Là, on est à peu près à 40% du total dans nos achats. La prochaine collection, là, qui va être fin début 2022, on sera à 45% de coton bio et 50-55% de matières éco-responsables en totalité. C'est difficile de s'approvisionner en coton bio. En ce moment, il se passe des choses difficiles sur le marché. Donc, pour une petite marque comme Petit Bateau, mais qui achète plusieurs centaines de tonnes, c'est difficile de s'approvisionner. On ne va pas aussi vite qu'on voudrait. Et ça, c'est vraiment... Ça nous challenge aussi dans la manière sans doute dont on doit prendre les sujets. Mais on travaille avec des partenaires de longue durée, essentiellement Turquie. Hein. Le coton bio pour nous, c'est essentiellement la Turquie, un tout petit peu l'Inde. Mais c'est sûr qu'il y a une crise du coton bio aujourd'hui, en ce moment, dans le monde, et tout le monde en souffre. Le coût est une chose, mais c'est déjà la disponibilité qui est un vrai sujet.
On a mentionné tout à l'heure le savoir-faire et la transmission qui était internalisée, mmh. Finalement. Vous pouvez nous parler justement de ça, parce que je sais que c'est aussi une problématique, recruter des personnes qualifiées, les former. Le paysage textile en France a été un peu sinistré et de fait, la jeune génération n'est pas nécessairement hyper attirée par ces métiers. Comment ça se passe chez Petit Bateau ?
Alors, c'est une préoccupation qu'on a évidemment de manière très forte. La transmission du savoir-faire à trois. On travaille dessus en essayant d'anticiper et d'être proactif. Alors très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? On a monté une école de formation pour des ouvrières de confection. Hein, donc première étape, le tricot, tricotage, teinture. Là, on a des apprentis. Un petit peu au fil de l'eau. Je voudrais aller un peu plus vite, de manière un peu plus structurée, mais pour l'instant, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on monte. En revanche, pour la deuxième étape, qui est celle de la confection, on a une centaine d'ouvrières entre la coupe et la confection à trois, ce qui fait qu'on est probablement un des plus gros ateliers de France. Hein.
C'est une petite question, mais c'est que des femmes, vous dites ouvrières, mais c'est...
C'est que des femmes.
C'est que des femmes.
C'est que des femmes. C'est d'ailleurs... Enfin, j'en parlais hier avec la responsable du recrutement et de la formation. Je dis, j'aimerais vraiment qu'on arrive à diversifier. Le tricotage teinture, c'est que des hommes. Et la confection, c'est que des femmes. Et on est comme en 2021. Est-ce que tu ne crois pas qu'on pourrait essayer d'avoir un petit peu plus de mixité et d'avoir des ateliers un peu moins genrés ? Et elle m'a dit, OK, j'accepte le challenge, mais ce n'est pas gagné d'avance. En fait, on a quasiment que des candidates pour la confection et que des candidats pour le tricotage. Pour la confection, on a un programme depuis 2017 où chaque année, on recrute un certain nombre de gens via Pôle emploi. Et c'est des périodes d'adaptation à l'emploi. Donc c'est quand même beaucoup de reconversion plus que de formation initiale. Et ensuite, il y a une période de professionnalisation, ce qui nous permet d'avoir environ aujourd'hui un tiers des personnes de l'atelier qui viennent de ce parcours. Donc elles sont formées pendant pratiquement un an. De plus en plus, au début c'est vraiment une école et puis après c'est de plus en plus intégré dans le système de production. Donc le savoir-faire se transmet de cette manière-là.
Aujourd'hui, vous produisez combien de collections par an et à peu près quel nombre de pièces ?
Donc on a deux saisons qui correspondent, je dirais, à la météo, puisque l'hiver il fait froid et l'été il fait chaud. On ne peut pas avoir les mêmes pyjamas, les mêmes bodys, les mêmes robes pour les deux saisons. Ensuite, on essaie de rythmer quand même les saisons pour que les magasins vivent et qu'il y ait quand même un intérêt renouvelé. Mais ça, c'est... Je ne vais pas y arriver. Mais fondamentalement, Petit Bateau, ce sont des produits qui sont indémodables, avec un style intemporel, et on fait environ les deux tiers de nos produits avec ce qu'on appelle des essentiels, c'est-à-dire des produits qu'on retrouve de saison en saison. Donc oui, on a une animation saisonnière, oui, on essaie d'être dans l'air du temps, de proposer des imprimés sympas, qui sont un peu, font le sel un petit peu de la marque, mais fondamentalement, on est sur des essentiels, et des produits intemporels.
Et alors, il m'a été dit que dans l'ensemble des axes RSE mis en place dans le futur, il y avait la production à la demande qui avait été soulevée. Comment ça s'organise ? Est-ce que c'est concret déjà ?
Ah, tout à fait. On a fait... Alors, de manière générale, notre souci, c'est de réduire l'écart entre ce qu'on fabrique et ce qu'on vend, parce que sinon c'est du gaspillage, c'est pas bon pour la planète, mais c'est pas bon non plus pour les comptes de Petit Bateau. Alors, il y a plusieurs méthodes pour y arriver. D'abord, d'avoir une proportion de produits essentiels importante, comme je viens de le dire, et puis aussi de savoir suivre de plus près la demande réelle des consommateurs. Donc, cette réactivité est au cœur de notre transformation RSE et aussi au cœur de notre transformation générale de l'entreprise. Donc, réactivité, ça veut dire produire en cours de saison. C'est pas facile. Ça demande une organisation complexe avec... on discutait récemment avec les opérationnels. C'est quasiment une réactivité à l'heure. Quand vous avez les chiffres de vente qui tombe, d'être capable d'actionner des programmes de refabrication très rapides. Ça suppose aussi de pouvoir produire localement, et ça, je crois que c'est très important. La production à la demande, c'est quelque chose qui est de nature à favoriser, évidemment, la production à trois, puisqu'il faut aller vite. Alors, il y a plusieurs niveaux de réactivité, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour nous, c'est vraiment un objectif majeur.
Et vous êtes, pour ça, vous êtes accompagné par une entreprise
Oui, on a travaillé avec Tekin. On a progressé ensemble. Et donc Tekin propose des solutions techniques assez innovantes. Mais finalement, ce qu'on a appris avec eux, c'est surtout un mindset, une organisation. Et finalement, on travaille beaucoup avec... On s'est rendu compte que si on adoptait un mindset de réactivité... Avec nos formidables équipes de coupe, de confection, d'ennoblissement, on pouvait adapter un outil séculaire à ces exigences nouvelles.
Et est-ce que vous pensez que la production à la demande est facilitée quand on est une entreprise comme Petit Bateau qui internalise le tricot et la confection ? Parce que vous êtes moins soumis peut-être aux jeux de marchandage et aux économies d'échelle qu'on peut avoir quand on est une entreprise qui externalise tout ?
Ce que je sais certainement, c'est que les circuits courts, de ce point de vue-là, nous donnent une force très grande et qu'on a pu expérimenter une réactivité courte, forte, grâce à cette intégration.
Alors, je voudrais qu'on parle, qu'on reprenne peut-être au moment de votre arrivée dans l'entreprise. Je sais que ça coïncide à peu près avec l'accompagnement qui a été réalisé par la société Utopie. Est-ce que vous pouvez nous parler peut-être du plan d'action global qui a été mis en place à votre arrivée, de comment vous avez structuré finalement cette transition? Parce que là, vraiment, on a décomposé la chaîne et on voit bien ces différents axes, mais avec une vision un peu plus macro. Comment est-ce qu'on embarque l'ensemble de ces équipes, a fortiori quand on arrive dans une entreprise? Et puis, quels sont les acteurs aussi externes qui vous ont accompagné là-dedans?
Petit Bateau est une entreprise RSE depuis sa fondation, hein, parce qu'elle a été, nous sommes fabricants, la durabilité est inscrite dans notre ADN. Dans les années 30, on parlait d'économie par la qualité, puisque un produit qui dure longtemps, il est meilleur pour la planète, il diminue son empreinte environnementale. Si vous utilisez le produit peut-être 30% plus longtemps, l'empreinte environnementale diminue d'au moins 25%. À peu près, hein, c'est des proportions. Donc, on a toujours fait de la RSE sans le savoir, et les vêtements Petit Bateau se passent de main en main, de génération en génération, depuis des générations. Donc, l'économie circulaire, qui est un élément fondamental de ce qu'on veut faire, c'est quelque chose qui était pratiqué un peu comme la prose de M. Jourdain, sans qu'on le sache. Donc, on a été aidé dans cette prise de conscience par notamment Utopie, mais c'était très important de se l'approprier. Et je crois que c'est ça qu'on a fait avec d'abord avec une toute petite équipe, hein, mais progressivement on a mobilisé l'ensemble de l'entreprise. Ce qui aide aussi, c'est qu'on est dans un groupe Rocher qui est lui-même très engagé dans les sujets RSE depuis longtemps et qui a décidé plus récemment de devenir une entreprise à mission selon les caractéristiques de la loi Pacte, hein. D'ailleurs, Brice Rocher s'est vu récemment confier une mission à ce sujet. Donc, on est également engagé au niveau du groupe. Chaque marque doit viser la certification B Corp. Donc, il y a toute une série de choses qui font que l'agenda RSE, qui est d'ailleurs maintenant aussi dans nos objectifs de rémunération, dans nos objectifs variables. Donc,
c'est-à-dire, vous voulez dire qu'il y a une comptabilité comme la comptabilité financière et une comptabilité RSE?
Alors, non, elle est... On y réfléchit, mais de manière beaucoup plus simple, chacun d'entre nous avons des objectifs RSE dans nos objectifs annuels. Donc l'objectif RSE est au centre de ce que veut faire le groupe et de ce que veut faire Petit Bateau.
Donc en pratique, vous avez mentionné tout à l'heure les 10 engagements RSE révélés au public. Quels sont-ils déjà ces 10 engagements et comment est-ce que vous avez structuré ce qu'ils sous-tendent?
On a d'abord eu une phase de prise de conscience et d'inventaire. Et puis on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on... Si on voulait véritablement embarquer tout le monde, le structurer sous la forme d'engagement. Et derrière chaque engagement, il y a un projet très concret. C'est-à-dire un projet au sens groupe projet avec un sponsor, un chef de projet, des gens embarqués, des objectifs, des KPI, etc. Donc, ce n'est pas des engagements qui sont... En fait, les projets sont arrivés presque avant les engagements. Et les engagements, c'est une manière un peu de synthétiser, de se prendre un engagement vis-à-vis de nous-mêmes d'abord, et puis évidemment vis-à-vis de l'extérieur, de nos stakeholders, etc. Donc, c'est des engagements qui sont liés à la durabilité, à l'économie circulaire, à l'éco-conception, aux matières éco-responsables, à l'élimination du plastique, des engagements qui sont liés également à la volonté de faire de l'usine de Troyes une usine exemplaire en matière d'impact carbone et eau, des engagements qui sont liés à la nature de nos relations avec nos fournisseurs, qu'on veut continuer à être une relation de confiance et à long terme, des engagements qui sont liés aussi. Je parlais de faire de Troyes d'une usine exemplaire, aussi de soutenir le savoir-faire en France et d'être un acteur important de notre écosystème, notamment troyen au bois, mais aussi au niveau national, donc d'être des parties prenantes actives du maintien des savoir-faire et de la transformation de l'industrie. Cet engagement aussi d'être certifié B Corp à horizon 2025. Et puis un dernier engagement, c'est d'incarner notre mission. Quelle est la mission de Petit Bateau? C'est connecter les enfants avec la nature. Donc là, on a véritablement On va travailler avec une association. Alors ça, je peux pas vous en dire trop parce que on va dévoiler un petit peu ce partenariat dans les semaines qui viennent. Donc je préfère garder un petit peu le suspense. Et ça nous donnera peut-être l'occasion d'en reparler. Mais cette mission fondamentale, et ça a été une prise de conscience progressive qu'on a formalisée l'année dernière, c'est connecter les enfants avec la nature, parce qu'on a la conviction que c'est en tissant des liens avec la nature que les enfants grandissent en confiance, en créativité et en étant des futurs citoyens du monde, si je puis dire. Parce que la nature, c'est le plus beau terrain de jeu pour les enfants. C'est en jouant que les enfants grandissent. Et ça, c'est une conviction qui existe depuis toujours chez Petit Bateau. Hein, cette vision de l'enfance, qui est une enfance qui joue, qui fait des bêtises et qui apprend comme ça.
Et qui a le droit de le faire dans des vêtements permissifs.
Alors que c'est des vêtements libres, c'est des vêtements permissifs. Pourquoi on est liberté, qualité, durabilité ? Ben, cette notion de liberté, c'est à quoi ça sert de faire des vêtements si on ne peut rien faire dedans.
Vous êtes accompagné donc par des organismes tiers auditeurs sur l'ensemble de ces segments. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu des détails sur éventuellement qui sont-ils et comment est-ce que ça s'organise concrètement ? L'idée ce podcast, c'est de partager les bonnes pratiques.
Bon, au début, c'est une philosophie, hein, travailler avec des fournisseurs de long terme, de confiance, afin de fournir à nos clients des produits de qualité qui sont des reflets de notre savoir-faire partout dans le monde, quel que soit le produit. Donc ça, c'est la philosophie de base, c'est la promesse de qualité et de durabilité pour tous nos produits, donc la qualité de nos fournisseurs. Donc on a un processus de sélection et de certification de nos fournisseurs qui est très strict, qui comprend un certain nombre de principes qui sont contenus dans le guide dans notre code éthique au niveau du groupe, hein, et puis des certifications techniques qui sont le reflet de notre qualité. Donc ça, c'est une philosophie d'exigence et de confiance et de partenariat avec les fournisseurs. Une pratique de sélection qui garantit cette qualité partout dans le monde, et puis un système de contrôle. Donc on va auditer d'ici fin 2022 tous nos fournisseurs de premier rang critique, soit suivant le degré de criticité, enfin, je ne vais pas rentrer forcément dans les détails, mais il y a une matrice en réalité, soit un audit documentaire via Covadis, soit un audit sur place avec le référentiel SMETA, qui est un référentiel reconnu et très exigeant, et un organisme tiers qui réalise ces audits. Alors on peut encore progresser, hein, y a pas mal de, certainement pas mal de choses à faire, mais enfin c'est quand même une approche très, me semble-t-il, solide, hein, pour assurer ces exigences de qualité, de responsabilité partout dans le monde.
Et comptez consommatrices et consommateurs, pour faire la démonstration de ça, vous êtes rapprochés également de structures comme Clear Fashion, Good on You, qui sont pas exactement des auditeurs, mais qui sont des intermédiaires finalement de confiance entre le grand public et la marque.
Oui, alors on travaille depuis le début avec Clear Fashion, parce qu'on aime bien se faire challenger. Et c'est une entreprise, enfin une équipe formidable et exigeante, et on a un dialogue avec l'équipe et les fondatrices sur ce sujet. On n'est pas forcément toujours d'accord sur certains points, mais c'est très important. Good on You, on n'est pas vraiment encore dans cette phase-là, parce que Good on You ne travaille pas comme Clear Fashion en direct, il travaille plutôt sur la base de ce qui est publié, et ce n'est qu'au début de ce mois-ci, hein, au début mai, qu'on a publier tout ce qu'on avait envie, et encore, je pense qu'il y a une deuxième phase, notamment la publication de la liste de nos fournisseurs de rang 1, qu'on va réaliser très prochainement. Ça fait partie de nos engagements, hein, de publier la liste de nos fournisseurs, et c'est une question de semaine. Donc, avec Good on You, c'est comme ça qu'on va les réapprocher.
Tout à l'heure, vous avez mentionné le process B Corp. Vous en êtes où dans cette démarche ?
Alors là, on est dans la première phase, hein, qui est la phase de constat et d'analyse. Donc le processus B Corp, c'est un processus qui est très complet et qui nécessite un travail véritablement de fond. Donc là, on est dans la phase pour essayer de comprendre où est-ce qu'on se situe, ce qui doit être amélioré. Et puis aussi, comme c'est un processus qui est très précis, dans la démarche de certification, il y a un ensemble de choses où on n'est pas forcément capable de produire des documents qui montrent de manière factuelle ce qu'on fait. C'est-à-dire, il y a un processus de documentation derrière le processus B Corp qui est assez lourd. Donc voilà, on est dans cette phase de constat. Où est-ce qu'on en est et qu'est-ce qu'on doit faire? Et donc, on va, une fois qu'on aura établi le constat, on s'est donné 2 années pour s'améliorer, parce qu'on aura certainement des sujets, et c'est l'intérêt du processus B Corp, hein, c'est un processus d'amélioration continue, et on vise la certification, le processus de certification en 2024 pour avoir une certification en 2025, comme l'ensemble des marques du groupe. Hein.
Est-ce que c'est dans ce cadre-là que vous avez fait réaliser des analyses de cycle de vie produits? Et est-ce que vous pouvez nous détailler d'ailleurs ce qu'ont un peu donné ces ACV sur, j'imagine, des produits emblématiques?
Ce sont deux choses qui sont évidemment en rapport, mais qui sont distinctes. Pour nous, l'ACV, c'est intègre dans cette démarche d'éco-responsabilité. On a pris l'engagement d'avoir 100% de produits éco-responsables à 2025. Mais cette notion d'éco-responsabilité, elle n'est pas forcément bien définie. Donc, la première étape, il y a 2 étapes clés, c'est définir ce qu'on entend par éco-responsabilité et le publier, pour que les gens sachent de quoi on parle. Il y a des notions d'empreinte environnementale, c'est évident. Il y a peut-être d'autres notions à prendre en compte. Et puis, pour être sérieux dans la démarche d'éco-responsabilité, il ne suffit pas, même si c'est fondamental, d'avoir des matières éco-responsables. Il faut avoir des produits qui, sur le cycle de vie, sont efficaces. Mais ça, c'est des technologies, c'est des expertises qui sont lourdes. C'est des savoir-faire qu'on n'a pas forcément en interne. Donc on est dans la phase d'expérimentation, de POC, comme on dit, et qui vont démarrer plutôt sur la deuxième partie de l'année.
Et ça, vous le faites en interne ?
Avec des cabinets d'expertise, oui.
D'accord, très bien. Vous avez pris quelques produits, c'est sur l'ensemble des produits ?
On va essayer de faire ça sur un échantillon relativement représentatif de notre gamme.
Et est-ce que vous prenez en compte l'éventuelle récupération pour la dégradation et éventuellement le recyclage des produits, ou bien quelle est la fin de vie considérée en fait? Est-ce que ça s'inscrit dans une boucle circulaire?
Ça, c'est des questions qu'on se pose. La fin de vie de nos produits nous préoccupe évidemment. Hein. On a toute une série de... on donne les produits invendus, on recycle les produits qui ne peuvent pas être donnés ou les chutes de coupe, etc. On a surtout, et ça c'est important, mis en place mi-mai, hein, le 19 mai, un programme qu'on a appelé Changer Demain, qui est un programme... De reprise en boutique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, que ce soit sur une app qui s'appelle Changer Demain, que ce soit en boutique, on peut venir apporter ces produits petits bateaux. S'ils sont dans un état, en bon état, ils pourront être revendus. S'ils sont dans un état, un petit peu, ils ont subi plusieurs cours de récré et plusieurs parties de foot. Eh bien, à ce moment-là, ils seront recyclés. Donc, la recyclabilité au départ, à la conception, c'est une vraie question.
Hier, j'ai eu l'opportunité d'interviewer Franck Caron, qui est responsable technique, si je ne dis pas de bêtises.
Au tricotage, oui.
Exactement. Et qui me disait que le recyclage en boucle fermée était déjà intégré dans les usines, c'est-à-dire que vous récupérez en pré-consumeur les chutes de matière.
Ah oui, bien sûr, c'est ce que je viens de dire, oui, absolument. Donc, tout ce qui est chute de coupe, chute de matière, on les recycle sous forme de matériaux pour la construction, l'automobile, des molletons, etc., etc.
Et il me disait que c'était la même chose pour les cartons et les plastiques également.
Absolument,
en interne.
Absolument.
Vous avez fait ma transition vers le circulaire et principalement la seconde main, alors C2C, parce que vous êtes une des premières marques à avoir fait ça. Est-ce que vous pouvez me parler de la façon dont ça a été mis en place, ce que ça vous a apporté?
Alors, on est en train de lancer ce programme Changer Demain. Hein. C'est un petit peu tôt pour en tirer un bilan. Il se repose sur une conviction et sur un constat. La conviction, c'est qu'on doit rentrer dans l'économie circulaire plus fortement que c'est absolument nécessaire en termes d'empreinte environnementale et donc de responsabilité sociétale de l'entreprise, c'est évident. Après, le constat, c'est que les produits petits bateaux sont caractérisés par leur durabilité et que, de manière naturelle et depuis un certain temps, font l'objet d'une économie circulaire qui ne disait pas son nom. Donc, c'est pour offrir un service intégré, sécurisé, facile à nos clients que nous avons mis en place ce programme Changer de main qui permet d'aller dans n'importe quelle boutique petits bateaux avec ces produits petits bateaux déjà, qui ont déjà vécu et qu'on vous les reprenne dans tous les cas.
Et alors, il me semblait qu'il y avait une plateforme entre consommateurs existants depuis un peu plus longtemps. C'était Seconde Histoire ou Seconde...
Oui, alors en fait, on avait lancé depuis 2017 une app qui s'appelait Seconde Vie.
Seconde Vie.
Et là, en fait, on l'a intégré. Comme on avait refait notre site et notre app, on a décidé de l'intégrer. Donc, elle est plus facile d'utilisation et donc elle s'intègre à une offre plus continue. Mais vous voyez, c'est le bon exemple du fait que la seconde main chez Petit Bateau, c'est quelque chose qui a une histoire.
Et en termes vraiment pratiques de gestion des boutiques, de vie des équipes, est-ce qu'il y a des éléments concrets que vous pouvez nous donner
Oui, alors là, il y a beaucoup d'éléments. D'abord, l'ambition RSE, c'est une ambition qui est partagée par toutes les communautés de l'entreprise et une mobilisation assez extraordinaire à tous les niveaux. Les plus ingénieux sur le terrain, des ateliers pour fabriquer des savons bio, des éléments de collecte qui ont été organisés par les collaborateurs eux-mêmes, et ça c'est génial. Dans les sites de production, on est devenu des sites LPO.
Vous pouvez détailler les sites LPO, pardon.
Ligue de protection des oiseaux.
D'accord.
Donc on a installé des nichoirs, des hôtels à insectes, de façon à ce que les oiseaux puissent venir s'abriter et vivre leur vie. On a un potager à Murat, on a des ruchers à Buchères dans notre centre de distribution. Donc il y a tout un travail sur le terrain, en boutique également. Et puis après, il y a d'autres aspects plus globaux. Par exemple, on a un contrat au niveau du groupe Rocher pour avoir de l'électricité 100% soutenable, hein, donc des renouvelables. Donc toute notre électricité est issue d'énergie renouvelable. Pour ce qui est du plastique, notamment en boutique, on a fait un gros travail, mais qui est encore en cours, pour éliminer tout le plastique. Donc on a éliminé notre sacherie plastique. Là, ça a été un peu plus long que prévu à cause des fermetures, évidemment, des boutiques, mais on a remplacé par des sacs en papier pomme, qui sont en partie recyclés à base de fibres de pomme, de pelure. On a éliminé tous nos cintres en plastique pour les remplacer par des cintres en aluminium dont les ACV prouvaient qu'ils étaient beaucoup plus respectueux de l'environnement. Mais il y a encore du boulot. On a aussi éliminé toute une partie du plastique de nos enveloppes e-commerce. Il y a encore du boulot, par exemple, pour ce qui est des polybags, hein, vous savez, ces petits sachets transparents qui protègent les vêtements pendant le transport. Là, il y a un gros travail et qui est un peu le souci de toute la profession quand elle est concernée par ces sujets. Et donc là, on l'a pris aussi au niveau de groupes de travail animés par Paris Good Fashion, ce collectif de marques engagé pour la mode durable à Paris. Et donc là, on vise d'abord d'utiliser du plastique recyclable et recyclé d'ici 2025 et d'éliminer nos polybags en plastique d'ici 2030. Mais ça fait partie de ces sujets qui sont un petit peu plus difficiles à traiter que ce qu'on voudrait. On voudrait aller beaucoup plus vite et la réalité quelquefois résiste.
Vous avez parlé de l'élimination du plastique vierge tout à l'heure. C'est déjà le cas ?
Alors, en grande partie, c'est notre engagement 2025 pour ce qui n'est pas encore le cas.
D'accord. Est-ce qu'il y a des choses à mentionner sur le futur immédiat ? J'ai eu une info concernant une certification EPV, par exemple, ouais. Entreprise du patrimoine vivant, dans les achievements à court terme.
Voilà, donc on est en cours de finalisation du dossier, parce que ce label entreprise du patrimoine vivant, il nous va bien. Il correspond véritablement à qui on est, et c'est en cours. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus.
Très bien, on va suivre ça. Est-ce qu'à l'heure actuelle, dans vos futurs axes de développement, il y a encore des choses qui vous challengent ou qui vous semblent compliquées ou infaisables ?
Alors, il y a beaucoup de challenges et on les prend avec grand plaisir. Hein. Le coton bio, l'élimination du plastique, tout ça, ce sont des challenges qu'on prend avec appétit et parce qu'ils nous semblent importants. Par contre, la crainte que j'ai, moi, un petit peu, c'est la surenchère, je dirais, en termes de réglementation. Et je pense notamment à toutes les discussions en cours autour de l'affichage environnemental. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Hein. On a tous envie d'être de transparence. On sait que c'est la demande forte de nos communautés. Et on est tout à fait engagé dans cette démarche de transparence. On a mis le Made in sans qu'on nous ait, on en ait l'obligation. Mais il y a des discussions.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Autour de l'affichage environnemental, moi qui me font un petit peu peur parce qu'elles me paraissent des usines à gaz qui sont très difficiles à mettre en œuvre pour les PME, mais même pour des entreprises de taille moyenne comme Petit Bateau, et pas forcément la meilleure manière de répondre aux exigences de transparence des consommateurs. Et puis une entreprise industrielle, un fabricant comme Petit Bateau, et de ce si c'est important pour nous d'être fabricant, on a besoin de stabilité, on a besoin de temps pour s'adapter. Et c'est ça qui me fait peur. Je pense que les bonnes intentions doivent se traduire dans des programmes qui permettent à tout le monde de s'améliorer. Et ça, il faut le faire avec pragmatisme. Je crois que le pragmatisme, ça doit être une valeur fondamentale de la transformation RSE.
Vous voulez dire par là que les critères sont trop importants et trop détaillés pour pouvoir fournir ces informations, ou bien ils ne sont pas adaptés ?
Alors, le vrai problème, c'est qu'on n'en sait rien. Le vrai problème, c'est qu'on parle d'affichage environnemental et à ce jour, on est incapable de savoir ce qu'il faut afficher, comment il faut calculer les scores. Tout le monde parle de faire l'équivalent du Nutri-Score pour le textile. C'est très bien, mais quelle est la méthode comment on la met en œuvre encore une fois, un fabricant a besoin de clarté pour pouvoir s'adapter. Et ce n'est pas un problème d'exigence, parce qu'on est très exigeant et on accueille l'exigence bienveillance, au contraire, mais c'est l'absence de clarté qui est l'absence de prévisibilité qui est extrêmement dommageable.
Et si je ne dis pas de bêtises, on parlait tout à l'heure du coût d'usage du vêtement, tant économique que sur l'environnement, et ce Nutri-Score ne prend pas en compte, au-delà des étapes de fabrication du produit, ça a son impact sur la durée de vie.
Alors, vous avez absolument raison, un des éléments fondamentaux qui devrait être pris en compte, et aujourd'hui ce n'est pas forcément le cas dans les projets qu'on peut connaître, c'est la CV, c'est la durée de vie du produit tout au long de son existence, parce qu'évidemment son empreinte environnementale n'est pas la même selon que on fait un produit qui est bon acheté au bout de quelques lavages et un produit qui, comme les produits petits bateaux, dure de génération en génération. Et le pire, c'est que si on ne prend pas en compte la durabilité, on risque de se retrouver avec, par exemple, un phénomène suivant. Si vous avez un t-shirt en coton qui a une impression qui est faite à la va-vite, il va peut-être avoir un impact environnemental au moment où il sort d'usine plus faible qu'un t-shirt qui a un grammage plus important, avec une teinture plus profonde, mais qui va vous durer 2, 3, 4 fois plus longtemps. Et donc, c'est absolument indispensable que la durée de vie, que la durabilité soit au cœur de tous les dispositifs d'affichage. Et ce qui me fait un peu peur, c'est qu'aujourd'hui, pour des raisons bonnes ou mauvaises, parce qu'il y a aussi des intérêts derrière, qui manipulent possiblement les différents sujets d'affichage, eh bien, on se retrouve avec des systèmes qui mettent sur le même plan des gens qui utilisent du coton bio et des gens qui utilisent du coton traditionnel, des gens qui ont des produits à durée de vie courte et des gens qui se donnent le mal d'avoir de la qualité et de la durabilité.
Je sais qu'il y a une nomenclature européenne qui se met en place en parallèle. Est-ce que vous, en tant que marque, vous aurez le choix de suivre un référentiel ou l'autre ? Comment ça va se passer ?
On ne sait pas. On ne sait pas. Et c'est cette incertitude qui moi, m'inquiète un petit peu. Je pense que s'il y a une norme européenne, c'est elle qui va s'imposer, mais au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas clair du tout.
Et les objectifs de publication théorique sont janvier 2022, c'est ça ?
Alors, il y a des textes, des projets de loi ou des projets de décret qui circulent, mais c'est, dans notre industrie, 2022, c'est demain matin. C'est-à-dire qu'on a déjà commencé à produire, on a certainement développé et conçu les produits qui seront livrés en boutique en janvier 2022.
Bon, de toute façon, la RSE, c'est un work in progress collectif. On voit qu'on n'a pas de réponse.
Et absolument, merci Victor.
C'est à tâtons. Et la dernière chose, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de finalement la marque en post-pandémie, parce qu'on n'a pas du tout évoqué ce sujet.
La pandémie nous a évidemment secoués. D'abord, il y a un ensemble de collaborateurs qui ont été malades ou qui ont eu des proches qui ont été malades. Donc ça, c'est quand même quelque chose auquel on pense en premier lieu. Et notre souci, ça a toujours été, ça l'est encore, de maintenir la sécurité au travail de nos collaborateurs. On pratique les gestes barrières, on est en télétravail autant que possible. Donc ça, c'est quand même un vrai bouleversement. Ça a été un moment de solidarité extraordinaire. De solidarité quand au niveau national, hein, on a été parmi les premiers à fabriquer des masques. C'était très émouvant la manière dont les opératrices de confection se sont mobilisées, même celles qui ne pouvaient pas se rendre pour des raisons médicales dans l'atelier ont demandé à ce qu'on installe des machines chez elles. Donc ça, c'était un moment fort et qui a aussi montré qu'on était capable de continuer à innover ce qu'on savait, d'être agile et de se réinventer. Donc ça, c'était des moments forts aussi de solidarité entre les différentes composantes de l'entreprise, entre les boutiques, le centre de distribution, les bureaux. Donc c'est quelque chose qu'on essaie de conserver. Maintenant, la vie continue et ça nous a donné peut-être encore plus d'énergie pour nous réinventer. Pris ce temps aussi pour réfléchir à qui on était et trouver peut-être des mots nouveaux ou des images nouvelles pour exprimer à quel point on se projetait dans l'avenir, que la marque Petit Bateau, l'entreprise Petit Bateau, forte de ses 130 ans d'histoire, était également prête pour les 130 années qui viennent. Donc ça nous a permis de clarifier notre mission, qui est de connecter les enfants à la nature, de réexprimer qui on était, nos grandes valeurs, liberté, qualité, durabilité, et de les exprimer d'une manière qui est peut-être plus contemporaine.
Et alors, qu'est-ce qu'on souhaite pour les 130 prochaines années à Petit Bateau ?
La durabilité, mais on est assez confiant. On a tout ce qu'il faut, on a les équipes, on a les produits, on a l'organisation, on a vraiment les convictions. On souhaite vraiment être l'entreprise la plus durable du monde de l'enfant. Et ça, c'est notre ambition. Et moi, je suis très confiant sur notre capacité à y arriver.
Merci beaucoup, Thomas.
Merci, Victoire.
Merci pour votre écoute. Si vous êtes encore là, c'est peut-être que vous avez apprécié cet épisode. La meilleure façon de nous le faire savoir, c'est de partager ce podcast sur vos réseaux, par email ou de bouche à oreille, de laisser sur iTunes un commentaire 5 étoiles et de vous abonner à la chaîne sur la plateforme d'écoute de votre choix.